Bonjour à tous. Comme un jeudi, les idées circulent mieux que jamais. Où en est la démocratie? Dans le cadre de notre journée spéciale Idées et politiques, les nouvelles batailles, Marcel Gaucher, l'Européen, vient réaffirmer son attachement à notre modèle démocratique, amené selon lui à se transformer dans la durée et à s'étendre. À l'occasion de la parution de son quatrième et dernier tome de l'avènement de la démocratie, le rédacteur en chef de la revue Le Débat ouvrira de nouvelles perspectives avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, explorateur et réalisateur, 10 ans après La Marche de l'Empereur, Oscar du meilleur film documentaire, il repart sur les traces du manchot dans l'Antarctique, l'Empereur, en salle. Mi-février, signe ses retrouvailles glaciales et familiales. Luc Jacquet est notre invité tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Personne ne leur a jamais appris à plonger, à nager, à pêcher. Ils ignorent tout des dangers de l'océan. Ils ignorent tout de leur proie.
Et lui, qui lui a appris à survivre dans ce milieu a priori hostile, l'hiver n'est pas terminé, mais son film n'est pas non plus encore en salle. Il a quand même accepté de sortir de son hibernation. Réalisateur ours de La Marche de l'Empereur, du Renard et l'Enfant, de La Glace et le Ciel, Luc Jacquet est notre invité aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Bientôt l'Empereur en salle, ce sera à la mi-février. Vous, Luc Jacquet, qui vous a appris le langage des polaires ?
Ah, je suis tombé dedans, j'ai appris tout seul en fait. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'était il y a longtemps. Et c'est vrai que c'est des obsessions, c'est vrai que c'est une addiction l'Antarctique. Et j'ai du mal à la soigner en vérité.
Elle se décrypte comment cette langue ? Comment on parle le polaire ?
Comment on parle le polaire ? Ben, un polaire reconnaît le polaire quasiment instantanément, c'est-à-dire qu'on a forcément un ami commun qui est en train d'être là-bas ou qui en revient ou qui va partir. Je crois que c'est surtout des gens qui ont en commun cette passion déraisonnable pour un continent qui a priori n'est pas très sympathique et qui pourtant nous aimante tous et nous aimante durablement sans qu'on sache vraiment pourquoi au fond.
Et ça s'apprend donc sur le terrain, ce n'est pas une langue qu'on apprend sur les bancs de l'école. Cette polarité est virale et ce virus, vous l'avez attrapé jeune, très jeune. Vous aurez 50 ans cette année, pardon de vous le rappeler. Mais cette base française du Mont-d'Urville, vous vous y êtes rendu quand vous aviez 22 ans pour la première fois. C'était le premier pied que vous avez posé là-bas, sur la glace. Elle est si difficile à pénétrer, cette base. Vous y étiez déjà donc il y a presque une trentaine d'années dans le cadre d'une mission d'ornitho-écologie polaire pour le CNRS. C'est effectivement une vieille histoire entre la banquise et vous. Hein.
Oui, ça fait toujours sourire quand je dis que cet endroit du monde est celui que je connais probablement le mieux, puisque j'ai passé 14 mois sur cet archipel de points de géologie, dans le cadre de ces missions que mène l'Institut Polaire, principalement scientifique. Et c'est vrai que je connais chaque recoin de cailloux, et quand je retourne là-bas, c'est d'abord la nostalgie de revenir vers un endroit que j'aime le plus au monde et dont je suis finalement relativement privé. Et c'est un rapport effectivement particulier, quoi.
Et c'est là aussi que vous devenez réalisateur finalement. Vos premiers pas dans le cinéma se font aussi sur la banquise, puisque vous avez assisté à sa demande, un réalisateur suisse, Hans Ulrich Schlumpf. Il vous a demandé de participer à son film d'alors, Le Congrès des Pingouins. Tout commence vraiment là-bas pour vous dans le grand froid. Hein.
Moi, c'est clair que c'est une révolution dans ma vie. Je me souviens très bien. J'étais chez mes parents, le téléphone sonne et quelqu'un me propose de faire des images pour un film. J'étais déjà dans l'excitation du départ pour l'Antarctique. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où le destin sonne à votre porte. Vous répondez pas. Moi, évidemment, j'avais besoin d'aventure. J'avais envie de ça. Je me suis goinfré de ça littéralement avec toute la gourmandise qu'on peut imaginer. Et c'est vrai que j'ai découvert la passion de faire des images, la passion de raconter aussi. Mon passé de scientifique, si j'ose dire, était quelque chose qui me permettait de voir des choses que mes amis ne voyaient pas. Et du coup, j'avais le sentiment qu'ils comprenaient un tout petit peu mieux le monde quand je leur racontais. C'était pas moi, c'était la science qui était importante là-dedans. Et c'est là qu'est finalement née ma passion de vulgarisateur, de passeur de science. C'est pour moi quelque chose de noble. Et c'est surtout aussi une façon de faire passer l'émotion. Je vous assure, quand vous êtes là-bas, vous êtes sur la banquise, vous faites un bout de route comme ça avec un empereur, c'est des choses que vous oubliez jamais. C'est fabuleux, c'est un truc, ça n'existe pas, quoi.
Sinon, vous auriez été quoi, biologiste ?
je sais pas, biologiste, j'étais passionné par la montagne, par la... Il y a un moment, j'ai commencé un DEA sur, à l'époque, c'était essayer de voir ce qu'on allait pouvoir faire des stations de moyenne montagne avec le réchauffement climatique. Vous voyez, c'était déjà quelque chose d'assez lointain, mais non, je crois que j'aurais été un très très mauvais scientifique, donc tant mieux pour la science, je suis cinéaste.
L'empereur, ce grand manchot, justement, est-ce que c'est un vrai personnage de cinéma?
Ben, c'est un personnage de cinéma dans le sens où je pense qu'il symbolise à merveille l'art d'être vivant en étant dépouillé de tous ses artifices. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué de vivre là où vit l'empereur. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'après l'empereur, il n'y a plus de vie du tout. C'est le désert absolu. Quand vous allez dans le Sahara, vous allez dans un désert chaud, vous allez soulever une pierre, vous allez tomber sur un insecte ou quelque chose. Là-bas, non. Et pour arriver à survivre là, il s'est dépouillé de la notion de territorialité, d'agressivité. Et il y a une espèce d'énergie comme ça, d'endurance à être vivant, qui est finalement le symbole de... Tout le monde peut se retrouver là-dedans. Et c'est en ça que je pense que c'est un personnage de cinéma, dans le sens où il est archétypique, il est universel. En tout cas, comme ça que je le vois, quoi.
La Marche de l'Empereur, sortie en 2005, a été un carton. Si mes chiffres sont bons, plus d'1,8 million de spectateurs en France, 25 millions dans le monde. Le film a été oscarisé, Oscar du meilleur documentaire à l'époque. 10 ans après la sortie du film, pourquoi y retourner? C'est 12 ans aujourd'hui, maintenant, avec ce film qui va sortir en salle mi-février, 12 ans après La Marche de l'Empereur. Pourquoi raconter? La suite de l'aventure?
Il y a beaucoup de pourquoi. C'est vrai que je suis retourné pas mal en Antarctique depuis. J'ai fait en particulier un film qui s'appelait La glace et le ciel, qui est sorti l'année dernière. C'est vrai que pour moi, ça reste une passion durable. J'avais toujours eu cette frustration d'avoir fait ce film presque sur un malentendu, La Marche de l'Empereur. On était parti avec des moyens très très frustres à l'époque. On n'avait pas pu explorer l'univers sous-marin de l'Empereur, qui est essentiel, hein, puisqu'il passe plus de la moitié de sa vie dans l'eau, qui est un univers dont on découvre à peine les merveilles, j'allais dire, hein, puisque l'équipe de Laurent Balesta a fait des premières mondiales lors de ce tournage-là. Et c'est vrai que j'avais envie de raconter ça. J'en avais aussi tellement parlé partout dans le monde que c'était devenu presque irréel et j'avais besoin de revenir à quelque chose, à retourner là-bas et finalement aussi peut-être à jouir du plaisir de tout ce que j'avais appris pour le mettre au service de ce sujet qui me fascine toujours.
Laurent Balesta, que vous venez de citer, c'est un photographe. Il vous a accompagné dans cette expédition avec aussi Vincent Munier et le réalisateur Jérôme Bouvier. Ça a été, on va raconter cette grande expédition. Eux, leur travail a fait l'objet d'un documentaire, Antarctica, sur les traces de l'empereur, qui sera diffusé samedi à 20h50 sur Arte. Mais vous l'évoquiez, deux niveaux, deux dimensions. C'est la particularité et la nouveauté vraiment de ce film, L'Empereur. Vous filmez là-haut et ici.
Là-haut, les hurlements du vent. Ici, la symphonie des créatures marines qui ne fleurissent que dans les grandes profondeurs. Là-haut, les mâchoires du gel et du froid. Ici, de longs courants tranquilles sur lesquels ils glissent sans effort. Les poumons vides, le cœur presque endormi, il descend durant de longues minutes, profond, très profond, plus de 600 mètres sous la surface.
12 ans après La Marche de l'Empereur, Luc Jacquet, la technologie a aussi fait un bond. Quel nouveau champ des possibles, ces avancées vous ont-elles ouvertes?
Ben déjà les portes de l'océan, ça c'est clair. On n'aurait pas pu imaginer tourner en pellicule à l'époque avec 10 minutes de pellicule pour plonger à 70 mètres sous la surface, c'était pas possible. En plus dans les conditions de lumière dans lesquelles on peut être. Donc les portes de l'océan, ça c'est une première chose. On a pu suivre les empereurs très profonds. Deuxième chose, c'est qu'on a pu donner la dimension avec des moyens aériens aujourd'hui qui nous permettent d'appréhender l'immensité de l'Antarctique qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Et puis je crois qu'il y a aussi un facteur humain. Avec Jérôme, ça fait 12 ans qu'on parcourt le monde à faire des films. Je crois qu'on, j'espère en tout cas qu'on sait mieux faire des images qui racontent des histoires. Et je crois que c'est vraiment ça dont j'avais envie, c'est-à-dire mettre au service d'un sujet qui me tient à cœur, un savoir-faire, qui est celui qu'on a acquis à force de films, à force d'années. Et je crois que ça se ressent, en tout cas je l'espère.
Là c'est la première fois que vous filmez sous l'eau.
J'ai pas filmé personnellement, c'est Yannick Gentil qui opérait la caméra sous-marine, mais c'est la première fois qu'une équipe allait à 70 mètres sous la surface. On a trouvé des paysages qu'on ne connaissait pas, qui avaient jamais été filmés jusqu'alors, une biodiversité incroyable, et on a eu vraiment l'impression de lever le voile sur une toute petite part du mystère de l'Empereur. Je rappelle qu'il descend à 600 mètres sous la surface, c'est les abysses, c'est des endroits qui sont encore inaccessibles pour des plongeurs et probablement pour encore très longtemps. Mais là, on avait l'impression de voir cette métamorphose incroyable. On a tous l'image du manchot empereur un peu maladroit, comme ça, qui fait un peu marrer. Non, c'est une merveille de technologie naturelle, l'Empereur. En un pas, il va être capable de se transformé en un sous-marin, en une torpille, et on a eu la chance d'aller voir cette grâce absolue que peut avoir l'Empereur quand il nage dans l'océan.
Alors vous n'avez pas filmé ces images sous l'eau, mais vous avez quand même peut-être trempé le bout de votre doigt de pied. L'eau est à combien ?
L'eau est à -1,8, donc je vous assure que ça donnait pas très envie. Quand on voyait la tête des plongeurs, quand ils remontaient après 3 heures sous l'eau, ils donnaient vraiment pas envie. Moi j'ai toujours cette image, le dernier jour du tournage, où l'équipe de Laurent est remontée sur la banquise, et ils se sont endormis à même la glace. Mais ils dormaient comme des animaux, ils étaient épuisés, ils avaient tout donné, et j'ai fait des photos, il y a 6 mecs comme ça en rouge, couchés dans la... C'est vraiment impressionnant, ils ont vraiment donné énormément d'eux-mêmes, quoi.
Comme l'Empereur, avec ce deuxième film, donc vous bouclez un cycle. Est-ce que c'est aussi le cycle de la vie hein, des manchots empereurs ? On va peut-être raconter comment il se découpe, parce que c'est aussi ça que vous suivez dans ce film, noir et blanc, avec une bande jaune au niveau du cou. Le manchot empereur se reproduit pendant l'hiver. L'hiver en Antarctique, c'est quelle température ?
On est sur la côte, donc il fait relativement peu froid, moins 40.
Il faut
imaginer un moins 40 avec des vents de 200 km/h qui peuvent être permanents, la nuit quasi complète, et ces conditions qui font frissonner à plus d'un titre, effectivement.
Un œuf par femelle, pendant que le mâle couve, la femelle part faire le plein de nourriture pour ravitailler son conjoint. C'est le mâle qui couve, ça c'est une exception, c'est rare
ou... Ouais, c'est des choses qui arrivent dans la nature, mais en tout cas l'Empereur, je crois, pousse les limites de ce qu'il est imaginable. 120 jours sans manger. Dans le froid le plus extrême, la nuit la plus extrême, avec un œuf sur les pattes, la moindre faille, la moindre bout de glace peut le faire trébucher. Il y a des paniques qui se font dans la colonie. Comment ils font pour arriver à tenir en équilibre? C'est prodigieux. Et en dépit de ça, après avoir jeûné 120 jours, il va confier le poussin tout juste né à sa femelle et il va repartir se nourrir à la mer. On sait qu'il a une conscience exacte de ce qu'il peut endurer, et il y a des moments où, sentant que la femelle n'est pas de retour, sentant qu'il est trop près de la fin, va devoir faire ce choix crucial, c'est-à-dire abandonner son poussin. Et c'est vrai que cette notion d'histoire de vie, moi, m'a beaucoup touché. Vous avez mentionné avec beaucoup de délicatesse le fait que je vais avoir 50 ans. J'ai rencontré des empereurs qui étaient aussi vieux que moi, si j'ose dire, et que j'ai rencontré depuis 91 à nombreuses reprises, et je me suis dit, mais comment font-ils comment on peut vivre 50 ans dans ces conditions-là ? Alors que d'autres ne tiennent pas, et c'est vrai que cette notion de destinée m'a beaucoup interrogé sur ce voyage-là, quoi.
L'Oisillon va donc sortir de sa coquille un peu plus de 2 mois, c'est ça, après la ponte.
C'est ça, oui.
Et les parents vont se relayer pendant un temps pour s'occuper de lui, tout simplement. Et après, vous le dites, il y a le départ aussi des parents. Le moment qui vous guide dans le film, peut-être dans votre tête aussi, c'est apparemment cette énigme que vous dites chercher à percer, dans la voix de Lambert Wilson en tout cas. C'est cet appel secret, cette force qui guide l'espèce. C'est quoi ? C'est le mystère de la transmission.
Oui, c'est curieux parce que c'est sur ce voyage-là, je crois que j'ai été beaucoup plus troublé par ce que je ne savais pas parce que je ne savais. C'est vrai que sur la marche de l'Empereur, j'avais essayé de mettre en scène tout ce que la connaissance, tout ce que la science nous avait amené. Et c'est vrai que cette fois, je me suis complètement libéré de ça, en partie aux côtés de mon ami Christophe Barbeau, qui est scientifique, et on s'est dit, mais finalement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas en particulier quel est le calendrier, quel est le chronomètre que cette espèce a dans la tête, et parce que elle respecte des timings extrêmement précis, il faut être à l'heure en permanence quand on est empereur, sinon ça ne passe pas, ça tient pas dans l'hiver, et ça c'est absolument magique. Et de la même manière, vous voyez les poussins qui sont là, qui attendent des jours, et un beau matin, ils se mettent en route et ils se mettent à aller vers l'océan, alors qu'ils ne savent même pas où est l'océan. Qui leur a appris ça? Comment font-ils? Et on sent qu'il y a plein de choses qui nous échappent là-dessus.
Qui les guide, hein, quelle est leur boussole?
Et peut-être que c'est l'odeur. Il y a plein de conjectures là-dessus, on n'en sait rien. Et on sent que la science a encore des marges de manœuvre absolument considérables. Et je trouvais... Moi, ce mystère m'a énormément touché, ému, parce que, encore une fois, il est métaphorique. Il nous ramène vers quelque chose d'universel. Quand les poussins se jettent à l'eau, c'est se jeter à l'eau au sens littéral. C'est vraiment la prise d'indépendance et aussi une prise de risque qui est absolument insensée. Et qui leur apprend ? Ben pour l'instant, on n'en sait rien.
Pourquoi on ne voit que des empereurs dans le film ? On croise leurs cousins une fois, il y a quelques oiseaux rapaces, mais globalement, les autres animaux semblent avoir complètement déserté le continent blanc. Est-ce que c'est comme ça tout le temps ? Est-ce que c'est une histoire de saison ? Est-ce que c'est vous qui ne les avez simplement pas filmés ?
Non, c'est vraiment une histoire de saison, c'est-à-dire que effectivement, l'empereur arrive sur ces bordures du continent antarctique quand tous les autres oiseaux ont déserté, c'est-à-dire début mars, au début de l'hiver, et ils vont rester là jusqu'au mois de décembre. C'est vrai que le printemps antarctique annonce l'arrivée de toutes les autres espèces. C'est foisonnant puisque tous ces animaux finalement se disputent, principalement des oiseaux de mer, mais des phoques, se disputent les maigres rochers qu'il y a autour du continent pour arriver à trouver un nid et poser leurs petits. L'empereur a fait un choix différent. Lui se repose sur la glace de mer qui est plate, qui lui permet d'avoir un support stable. Et c'est vrai que ça lui donne cette écologie si particulière et qui, à mon sens, est beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus noble que d'autres espèces d'oiseaux intéressantes par ailleurs, hein, certes, mais qui sont peut-être un peu plus, j'allais dire banales, c'est pas le cas parce que c'est fabuleux, mais en tout cas, cinématographiquement parlant, moins spectaculaire, clairement.
Et cinématographiquement parlant, justement, le manchot empereur, vous trouvez pas qu'il nous ressemble un peu quelque part, filmé de loin, on dirait un peu des hommes ballots qui avanceraient avec une démarche un peu tangente, mais il y a quand même une ressemblance, non?
J'aime bien votre démarche tangente.
C'est parce que je trouvais pas le mot.
Vous croyez pas si bien dire le nombre de fois où on se surprend à prendre les jumelles en se disant, mais tiens, qui c'est qui est là-bas? Et en fait, c'est un empereur. Et ça va même jusqu'à... On a fini le film il n'y a pas très longtemps. Et il y a un moment, je me suis dit, oh, mais on a oublié un type dans l'image. Et non, ce n'était pas un type, c'était un empereur. Mais il a fallu aller vérifier. Voilà, donc la confusion est extrêmement fréquente. Mais c'est étonnant parce que je pense que ça marche pour eux aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois sur la banquise, vous les voyez converger vers vous. Et ils doivent probablement se poser la question comme nous, on se la pose.
Vivre au rythme des manchots, le temps d'une expédition quand même, Luc Jacquet, en immersion, ça doit pas être évident, non?
Mais c'est que du bonheur.
C'est que du bonheur.
C'est que du bonheur.
Il n'y a pas une forme d'adversité quand même à affronter dans ce grand froid, dans cet environnement, cet écosystème qui n'est pas du tout le vôtre, donc le nôtre.
Ça, je pense que c'est un prérequis. Je pense qu'il faut avoir envie de se confronter à ces éléments. Je pense que tous les éléments d'équipe autour de moi avaient cette envie-là. C'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans nos discussions. C'est se confronter à la démence du blizzard antarctique, c'est une expérience qui est inoubliable. Et à mon sens, c'est une assez bonne leçon de modestie. Ça, c'est un premier élément. Après, se mettre à vivre au rythme de la nature, en prenant ce que l'empereur vous donne, en vous arrêtant quand il s'arrête, en repartant quand il repart, mais ça procure un bien-être physique intense qui est exceptionnel. On se remet, je pense, à vivre au rythme qui est le nôtre, qui est un rythme animal, naturel. Ça fait beaucoup de bien.
Le cinéaste, réalisateur Luc Jacquet, ex-ours devenu cinéaste impérial, est avec nous pour son nouveau film en salle le 15 février prochain. Il s'appellera L'Empereur, avec la voix de Lambert Wilson. France Culture, il est midi 20.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Aux États-Unis, Luc Jacquet, la mobilisation anti-Trump se poursuit en musique. Après 30 jours, 30 chansons, initiative lancée avant la présidentielle américaine par des musiciens américains. En voici une nouvelle initiative, Nos Premiers 100 Jours, Our First 100 Days. Chaque jour, une nouvelle chanson et dans 100 jours, une compilation dont les profits seront reversés à des associations, notamment environnementales, qui luttent dans des secteurs menacés par la politique annoncée de Donald Trump. Fly on your wall, une mouche sur le mur, premier titre, celui de la chanteuse de folk rock américaine Angel Olsen.
At first it wasn't
On se souvient, durant la campagne des déclarations de Donald Trump sur le concept de réchauffement climatique inventé par les Chinois pour empêcher l'industrie américaine d'être compétitive, le candidat républicain qui avait aussi menacé de dénoncer l'accord de Paris issu de la COP21, et bien à peine arrivé à la Maison-Blanche, les premiers signaux qu'il envoie rendent les défenseurs de l'environnement très pessimistes. Des instructions qui auraient été données de retirer la page consacrée au changement climatique du site internet de l'Agence de protection de l'environnement. Agence à la tête de laquelle Donald Trump a nommé un climato-sceptique, des références au dérèglement climatique qui auraient disparu purement et simplement du site web de la Maison-Blanche. Ça s'annonce pas très bien, hein, Luc Jacquet.
Non, je pense que ça met en cause la notion qu'on pouvait avoir un peu utopique de progrès, c'est-à-dire de progression de la pensée, de prise de conscience. Je crois que personne n'a inventé le réchauffement climatique pour embêter les autres. Je pense que c'est un fait, il faut y faire face. Et à la limite, pourquoi pas, et tant mieux, parce qu'il y a de l'intelligence, il y a de l'ingénierie, il y a de la technologie là derrière. Et je comprends pas cette réticence. C'est assez désespérant au fond, effectivement.
Ce qui est désespérant, c'est que vous dites faire des films depuis quand même maintenant un certain nombre d'années, notamment pour participer à cette prise de conscience. Des films, ça se passe sur le long terme. Hein. Il faut en voir et petit à petit, ça agit sur le cerveau des gens. Là, tout à coup, un président arrive, prend en 48 heures des décisions qui pourraient détricoter tout ce qui a été mis en place jusqu'ici, les quelques avancées qui ont été permises. Et notamment au moment de la COP21, période à laquelle vous avez sorti votre précédent film, La glace et le ciel. Du coup, c'est quand même assez inquiétant.
Oui, moi j'ai une pensée pour tous mes amis scientifiques, chercheurs, artistes aux États-Unis qui sont des gens de bonne foi, qui sont des gens qui travaillent de toute leur âme pour essayer d'amener des solutions, des preuves, etc., etc., et qui d'un seul coup voient du jour au lendemain tout ça réduit à néant. Donc c'est vrai que encore une fois, c'est quelque chose que j'arrive même pas à concevoir au fond.
Leur film prend aussi le temps d'expliquer l'impact du dérèglement climatique sur la banquise et sur la vie des manchots, ce territoire qui semble si éloigné de tout et protégé par la distance, en fait, ne l'est pas tant que ça. Luc Jacquet, vous n'êtes pas retourné seul sur la manchotière de la Marche de l'Empereur. Le réalisateur Jérôme Bouvier, on en parlait, les photographes naturalistes Vincent Munier, spécialiste du grand froid, et Laurent Balesta des milieux sous-marins ont embarqué avec vous dans cette expédition Wild Touch Antarctica, Wild Touch du nom de votre fondation, ONG, celle que vous avez fondé. Vous avez embarqué tous pour la base de Dumont d'Urville en Antarctique. Leur documentaire Antarctica sur les traces de l'Empereur est à voir samedi à 20h50 sur Arte. On y suit les deux photographes. Ils vont de découverte en surprise. Leur regard est poétique, complice, émerveillé. Ils incarnent complètement cette expédition. Écoutez.
À cette époque, il n'y a pas vraiment de nuit. Pas vraiment de logique à la météo non plus. Vincent marche des heures, sans jamais s'éloigner de la base. Il finit par tomber sur la fameuse colonie de manchots empereurs. Le plus grand des manchots pouvant atteindre 1,20 m de haut.
Enfin la colonie. Il y a vraiment un côté complètement irréel. C'est juste inimaginable de voir une espèce animale aussi tranquille, aussi sereine. On arrive vraiment dans un autre monde. C'est juste complètement incroyable d'être si proche des animaux. Moi qui passe la plupart de mon temps à tenter de me cacher, à essayer d'être à l'affût, bien camouflé, à être complètement mimétique. Et puis là, il suffit finalement d'un peu de temps et on peut être très 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 près d'eux. Et c'est même eux qui viennent à nous finalement.
Luc Jacquet, on parlait de faire du cinéma pour réveiller les consciences. Quel est le film, vous, qui a changé votre regard sur cette situation avant vos propres films?
Ben, je suis d'une génération qui a été magnétisée par Cousteau, hein, et sa capacité à raconter le monde avec tout le talent qu'il avait. Je crois que ça va vraiment chercher dans ses origines-là. Je pourrais citer aussi Christian Zuber qui racontait le monde aux gamins qu'on était à l'époque. Et je crois qu'on est toujours dans cette lignée-là, dans ce désir de partager. Je crois qu'on a beaucoup de chance que de pouvoir vivre ce qu'on vit. Et je crois que la moindre des choses, c'est de pouvoir le communiquer à tous ceux qui n'ont pas cette chance-là, justement.
Luc Jacquet était notre invité. Malin comme un renard, bourru comme un ours et tangent comme un empereur, ou classe si vous préférez.
Swag,
l'empereur, écrit et réalisé par Luc Jacquet, une histoire racontée par Lambert Wilson sur une musique composée par Cyril Aufort, sera en salle le 15 février. D'ailleurs, la musique de l'empereur, hein, on le disait, signée Cyril Aufort et qu'on entend à l'instant, compositeur de musique de film avec lequel vous avez déjà travaillé sur La glace et le ciel qui était présenté en clôture du Festival de Cannes il y a 2 ans. C'était le portrait du glaciologue Claude Lorius qui avait démontré le lien entre gaz à effet de serre et réchauffement climatique lors de ses expéditions en Antarctique. C'est à voir aussi, puisque cette aventure scientifique avait été l'un des prémices du GIEC. Un grand merci à vous, Luc Jacquet.
Merci à vous.